Europe 1. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1.
Il y a bien longtemps que les petits-enfants n'ont plus peur de l'ogre, car les mamans n'ont plus le temps le soir à la veillée de raconter des histoires à dormir debout pour endormir justement leur progéniture. Mais le dossier que nous allons ouvrir ensemble aujourd'hui, chers amis, raconte une histoire à dormir debout, celle non pas d'un ogre, mais d'une ogresse. Oh, rassurez-vous, si la légende populaire affubla Jeanne Weber du surnom extraordinaire de « ogresse de la goutte d'or », elle ne mangeait pas les enfants pour autant. Cela précisé, je ne vous conseille tout de même pas de raconter ce soir à votre petit dernier les aventures de l'ogresse de la goutte d'or. Je ne suis pas sûr qu'il dormirait tranquille, et vous non plus, d'ailleurs. Écoutez-la quand même, et d'une oreille attentive, car c'est l'un de nos dossiers les plus extraordinaires, l'un de nos personnages les plus extravagants, et une série de crimes que l'on a rarement l'occasion de voir, heureusement d'ailleurs. Il était, dans la bonne ville de Paris, un quartier bien célèbre où l'un de nos romanciers, Émile Zola, trouva de quoi alimenter nombre de ses romans. La goutte d'or. Dans ce quartier du 18e arrondissement de Paris, près de la gare du Nord, on ne trouvait en 1905 que voies ferrées, usines, ateliers, maisons basses et noires de fumée, rien de bien touristique. Les habitants, pour la plupart ouvriers, y vivaient surtout le soir, envahissant les bistrots sordides, le cafcon sans fumée de la Fauvette et le samedi soir, le théâtre Montmartre. Les rues y portent des noms évocateurs, le passage de la Goutte, la rue du Pré maudit. Au 1 bis de la Goutte, justement, vit un ménage, les Weber. Lui est ouvrier au salaire confortable, 10 francs par jour. À l'époque, c'est une bonne paye. Elle tient la maison. Les voisins les connaissent bien, tout le monde se connaît bien d'ailleurs dans ce quartier où l'on vit autant sur le pas de la porte qu'à l'intérieur. Les voisins surtout connaissent bien Jeanne et la plaignent un peu. Pensez donc sur 3 enfants, 2 sont morts en bas âge, un seul lui reste, un petit Marcel de 7 ans, malingre et souffreteux. Oh, une bien grande misère. Oui, évidemment, on voit souvent la Jeanne, une bouteille de rouge sous le bras et des fois, le soir, elle a bien l'air un peu égarée. Or, que voulez-vous? On se console comme on peut. Et puis, un petit coup par-ci, par-là, ça n'a jamais fait de mal à personne, pas vrai? Au contraire, ça console de bien des malheurs. De sa fenêtre, souvent, la Jeanne regarde dans la rue les enfants qui jouent, qui courent. Elle regarde les tout-petits, surtout. Oh, c'est si beau, un tout-petit qui tremble sur ses jambes et marche en biais, les mains en avant, les yeux rieurs, en cherchant les jupes de sa mère. On le voit bien par moments, Jeanne a des envies irrésistibles de tendre les bras, de saisir le poupon, pour l'embrasser, sûrement. Ça lui rappelle trop sa petite dernière, morte à 20 mois. C'est dur pour une femme qui aime tant les enfants. Elle les aime tellement qu'elle est toujours prête à les garder. Oh, pour ça, elle est bien serviable. Et on peut avoir confiance. C'est vrai, Jeanne est toujours prête à rendre service et à garder les bambins encombrants, ceux de sa belle-sœur par exemple. Et aujourd'hui, justement, c'est jeudi, jour de l'avoir, et la belle-sœur a fort affaire avec la lessive de 2 bébés. Elle a 2 petites filles, Suzanne, 3 ans, et Georgette, 18 mois. « Jeanne, veux-tu les garder? J'ai 2 corbeilles pleines à laver. J'en ai au moins pour 2 heures. »« Jeanne veut bien. » « Prends ton temps, ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Sois tranquille, j'ai l'habitude. » Rassurée, la mère s'en va jusqu'au lavoir des 2 amis, une corbeille sur chaque hanche. Entre l'hypothèse et la lessive, elle rentrera à la nuit, juste à temps pour la soupe. Jeanne a refermé sur elle la porte du logis de sa belle-sœur, rue du Pré-Maudit, et s'est installée dans la cuisine, près du poêle à charbon. Pour mieux les surveiller, elle garde les deux enfants dans la pièce. Par terre, la plus grande, Suzanne, dont les 3 ans arrivent à peine au niveau de la table de la cuisine. Elle joue avec une poupée de chiffon multicolore, elle la couche, la borde, l'habille, la déshabille sans relâche. Elle ressemble déjà à une petite bonne femme, avec son air sérieux et sa tranquillité silencieuse. Georgette, le bébé, gazouille dans son berceau d'osier. C'est une enfant gaie, au sourire plein de fossettes, dont les rondeurs et le teint rose attirent l'œil. Elle gigote, tirant avec obstination sur l'un de ses chaussons. Jeanne est assise, immobile, le dos droit. Elle n'a pas amené d'ouvrage. Ses mains sont posées sur sa robe, la paume en l'air, comme des instruments inutiles. Elle a l'air attentive et bête à la fois. On pourrait dire, elle a l'air bonasse. Jeanne n'est pas belle. Un front rectangulaire, des sourcils minces aux arcades gonflées, des yeux noirs écartés, un nez épaté, une bouche tombante, un menton lourd. Le tout est posé sur une absence de cou et des épaules boulottes. Totalement disproportionné, sur deux grandes oreilles minces pendent 2 petits anneaux d'or. Seul le regard noir et dur tranche sur ce visage mou. Ce regard bouge. Il fait le tour de la pièce, objet par objet, il scrute lentement, puis se pose à nouveau. Pour la énième fois, la petite Suzanne habille sa poupée. Jeanne l'observe un moment. Le robinet de l'évier lâche, une à une, des gouttes d'eau dans une bassine en émail. Cela fait un bruit mat et agaçant dans le silence, qui est soutenu par le ronronnement du poêle. Dans son berceau, le bébé a cessé de s'agiter. Quelques gazouillis de plus en plus vagues annoncent le sommeil. Alors Jeanne se lève, tire sa chaise près du petit lit. Tout près, elle surveille l'enfant qui dort. Pendant ce temps, au lavoir, dans la fraîcheur de l'eau courante et le claquement des battoirs, la mère s'active de la langue et du bras. Un monticule de linge blanc vigoureusement tordu emplit déjà l'une des corbeilles, une bonne heure à passer. Soudain, un appel retentit et résonne en écho sous la voûte. « Madame Weber ! Madame Weber !» Essoufflée par la course, tenant ses jupes à pleine main, Mademoiselle Pouche, une voisine, est entrée en courant, faisant se redresser d'un seul coup, les dos courbés sur l'ouvrage. « Qu'est-ce qu'il y a ? Le feu ?» Reprenant péniblement son souffle, la messagère explique d'une voix entrecoupée « C'est la petite. Elle est malade. Elle étouffe. Jeanne vient d'appeler au secours. Dépêchez-vous !» Plantant là ses torchons, la mère s'élance affolée et remonte en courant la rue de la Chapelle, suivie par une horde de femmes curieuses de l'événement et qui envahissent derrière elle le logement. La petite fille est étendue sur le grand lit de la chambre, blanche d'étouffement, ses grands yeux fixant le plafond. Penchée sur elle, la tante Jeanne, une main glissée sous la petite chemise, épie les battements de son cœur. La mère se précipite, s'empare de l'enfant qu'elle arrache littéralement à son berceau et se met à secouer désespérément cet enfant en criant « Mais elle est morte, elle est morte !» Soudain, l'enfant a hoqué, le petit visage se crispe, la bouche s'ouvre, cherchant désespérément de l'air, quelques râles, puis les pleurs libérateurs, elle respire à nouveau, difficilement s'étrangle, mais elle vit. Aussitôt, un brouhaha de soulagement monte du groupe des voisines accourues. « C'est la première fois qu'elle a des convulsions, » dit la mère, pâle d'émotion. Silencieuse, Jeanne ne dit rien, mais en y regardant de plus près, elle a un air bizarre. Elle fixe l'enfant comme si... Mais non, c'est sûrement l'émotion. Et bientôt, elle se mêle naturellement à la conversation des commères qui se séparent sur le pas de la porte. Interrompue dans sa lessive qu'elle a laissée sur place, la mère doit retourner au lavoir. Après s'être assurée que l'enfant est bien calmée, elle la confie de nouveau à Jeanne et repart, à demi rassurée. 3 quarts d'heure après, un nouvel appel retentit sous la voûte du lavoir. « Madame Weber !» C'est la même Mademoiselle Pouche, en larmes cette fois, et qui, toute tremblante, n'ose pas en dire plus. D'une voix blanche, la mère demande « Georgette ?» Accablée, Mademoiselle Pouche fait un signe de tête. À nouveau, la mère s'élance comme une folle et pénètre en trombe dans la maison pour s'arrêter pile devant le berceau. Le bébé est étendu sur le dos, poings crispés, tête en arrière. Le visage et le cou sont violés. Cette fois, il est mort. Jeanne est toujours là, effondrée sur une chaise, le front couvert de sueur, l'œil hagard. Il n'y a plus rien à faire. Une bonne semaine après le drame de la mort de la petite Georgette, les parents Weber, qui ne sont toujours pas remis de leurs émotions, surveillent avec inquiétude leur fille aînée. Ils viennent de la surprendre jouant avec une bouteille de sirop d'éther à moitié pleine. La mère remet le flacon en place. Il ne manquerait plus qu'elle s'empoisonne. Madame Weber est inquiète. Le médecin n'a pas précisé de quoi était mort la petite Georgette. Les traces violettes sur le cou du bébé ne l'ont pas inquiété. Il a parlé de mauvaise bronchite, de convulsions. Et la mère a peur pour Suzanne, l'aînée, qui sait si une mauvaise maladie ne rôde pas dans la maison. Mais la petite fille, insouciante, semble en bonne santé. Comme d'habitude, elle joue avec sa poupée assise par terre sur une vieille couverture. Cet après-midi, la tante Jeanne doit venir la garder. Lorsqu'elle arrive, la mère fait ses recommandations. « Surveille-la bien !» Elle a pris goût à ce sirop d'éther, j'ai peur qu'elle ne l'attrape, si tu as le dos tourné. Puis, les parents sortent, et Jeanne se retrouve seule avec l'enfant. Une demi-heure après, un camarade de Pierre Weber vient le chercher à l'établi. Il faut que tu rentres chez toi, ça ne va pas. La gosse est malade. C'est au tour du père de regagner la maison en courant pour découvrir sa fille souffrant apparemment des mêmes symptômes que la cadette. Membres contractés, dents serrées, visage violé, elle étouffe. Monsieur Weber pense immédiatement au sirop d'éther et tente de faire vomir la petite fille. Il y réussit et l'enfant se calme. Au bout d'une demi-heure, Jeanne le rassure, le renvoie à son travail. Ah, les heures coûtent cher et la petite va mieux. Alors le père se laisse convaincre et repart. Une heure après, on revient le chercher, et il arrive juste à temps pour voir mourir Suzanne dans les bras de Jeanne. En une semaine, les deux enfants Weber sont morts d'une étrange maladie dont le seul indice visible semble être ces taches violettes à la base du cou. Madame Weber n'en veut plus. Le chagrin l'écrase. Mais un soupçon lui vient qu'elle confie à son mari. C'est bizarre quand même. Le cou de la petite était tellement marqué que Jeanne lui a mis un foulard. Si le médecin n'a pas délivré le permis d'inhumer, c'est bien pour quelque chose. On aurait dû le dire au policier qui est venu. Il n'a pas regardé sous le foulard. Il n'a rien demandé à Jeanne. Mais tais-toi donc. Cette femme a déjà eu suffisamment de malheurs comme ça. De quoi veux-tu la soupçonner? Elle adore les enfants. Madame Weber se tue et d'ailleurs, elle ne revit presque plus Jeanne, qui semblait léviter depuis la mort des enfants. C'est que Jeanne avait proposé ses services à un autre couple de la famille, dont le mari et son beau-frère, embarrassé lui aussi d'une petite germaine de 7 mois. Ils se nomment les Léon. Madame Léon, ravie de pouvoir aller faire ses courses les bras libres, s'absente pour l'après-midi, et Jeanne s'installe. Il y a 2 semaines, chez les Weber, elle s'était installée de la même façon, droite sur une chaise, tout près du berceau. Tout à coup, la grand-mère, qui habite à l'étage au-dessous, entend des cris perçants. Elle monte, aussi vite que ses vieilles jambes le lui permettent. Le bébé congestionné respire à peine et ne crie plus lorsqu'elle arrive. Inquiète, la grand-mère s'installe à bon moment aux côtés de Jeanne, qui lui explique calmement que ce n'est pas grave, qu'elle a déjà vu des enfants faire ce genre de crise. Une mauvaise digestion, sans doute. Ce n'est rien, rien du tout. Et comme la grand-mère se lève de sa chaise, elle la reconduit gentiment en lui conseillant d'aller chercher un médecin. Le docteur arrive, perplexe. Il constate des ecchymoses autour des oreilles. Examine l'enfant, ne trouve rien. Par acquis de conscience, il ordonne une potion et dit qu'il reviendra le lendemain. Le lendemain, l'enfant est en pleine forme. Décidément, ce n'était pas grave. Dans l'après-midi, Jeanne s'envoie confier de nouveau la garde. Le soir, eh bien le soir, le bébé est mort, enfoui sous les couvertures. L'enterrement a lieu 2 jours après. Jeanne y assiste.
Et le soir même,
c'est son propre fils, Marcel, qui meurt brusquement de suffocation. En moins d'un mois, 4 enfants de la même famille. 4 enfants que Jeanne connaît sont morts. Réunie dans le malheur, chaque branche de la famille trouve encore le courage de consoler cette pauvre Jeanne, qui semble plus atteinte que les autres par la mort de son propre fils. C'est ainsi qu'une cousine, Madame Charles Weber, vient lui rendre visite avec son petit Maurice. Un bébé de 10 mois, potelé bien rose, beau comme un Jésus. Jeanne est lugubre. Elle se confie. Le commissaire me fait des ennuis, il veut exhumer les petites. Mais je n'ai rien fait, défendez-moi. Les deux femmes discutent un moment et la cousine rassure Jeanne. Entre gens de la même famille, il faut bien céder. À un moment de l'après-midi, Jeanne qui tricote casse une aiguille et quel ennui! Elle n'en a pas de rechange. Oh, qu'à cela ne tienne! La cousine va lui en chercher. Et Jeanne reste seule avec le gros bébé rieur. Lorsque la cousine revient avec l'aiguille, son fils est sur le lit, violé comme ses cousines, convulsé comme ses cousines, il étouffe comme ses cousines. Pour la mère, c'est un choc et une révélation en même temps.
Malheureuse. Celui-là aussi, hein? Tu veux qu'il te passe dans les mains, comme les autres?
On court chercher le médecin qui découvre une tache noirâtre tout autour du cou que Jeanne a dissimulé sous un foulard. Le commissaire de la Goutte d'Or fait enfin arrêter Jeanne. Alors tout le monde se met à parler. Et l'on découvre qu'une petite Lucie et une petite Marcel de 2 ans chacune sont mortes, bien bizarrement, alors que Jeanne les gardait. Le commissaire, lui, attend prudemment les rapports du médecin légiste sur chaque enfant mort et qui portait tous des ecchymoses suspectes autour du cou. Mais le petit Maurice venait d'avoir la coqueluche. La petite Georgette avait au poumon un abcès tuberculeux. La petite Suzanne portait une lésion congénitale au larynx. Alors impossible de dire avec certitude de quoi sont morts les 4 enfants. Le médecin légiste, le professeur Toineau de la faculté de Paris, qui estime être un expert dont on ne peut pas discuter la compétence, affirme donc la mort naturelle. Et comme l'affaire fait grand bruit et que certains de ses collègues tentent de le contredire, il se fâche plus encore et fait paraître dans les archives d'anthropologie criminelle un article dans lequel il affirme que les constatations faites par des non-professionnels sont sans valeur. Il va même jusqu'à affirmer que les ecchymoses suspectes n'ont jamais existé que dans l'imagination des mères de famille. Mais les mères de famille ne l'entendent pas de cette oreille. Et la rumeur publique non plus. On réclame la tête de l'ogresse de la Goutte d'Or, que les revues décrivent folle, alcoolique et jalouse des enfants des autres. Les aliénistes ne la trouvent pas folle du tout. Et le 29 janvier 1906, devant les assises de la Seine, Jeanne Weber, butée, ne cesse de répéter « Je ne sais pas, je suis innocente !» Et bien que l'on ne s'explique pas tout dans cette singulière affaire, le jury déclare Jeanne Weber relevée de l'accusation portée contre elle. La foule gronde de colère et une femme s'écrie « Elle recommencera !» Rendue à la liberté, l'ogresse de la Goutte d'Or doit quitter son quartier car, si la justice l'a blanchie, le peuple de Paris, lui, la condamne. 2 ans passent et nous devrions refermer notre dossier car Jeanne Weber a disparu. Pourtant, un soir d'avril 1907, dans le bourg de Villedieu près de Châteauroux, une étrange femme veille un petit garçon de 12 ans qui semble bien malade. Elle s'appelle Madame Blaise. À côté d'elle, la sœur du petit garçon. Elles sont seules, le père est au champ. La mère est morte il y a bien longtemps. « Va chercher le médecin, » dit Madame Blaise à la petite fille. Mais le docteur arrive trop tard. Il ne peut que constater la mort et un large sillon sombre sur le cou du petit garçon. Méfiant, il avertit le parquet de Châteauroux. Et l'on apprend que Madame Blaise
C'est Jeanne Weber, recueillie par le père du petit garçon un mois auparavant. Il raconte qu'il a recueilli cette femme par charité, elle semblait pauvre mais brave, et elle aimait tant les enfants.
Cette fois-ci, vous pensez à juste titre que l'ogresse de la goutte d'or va se retrouver sur le banc des assises et que cette fois, c'en est bien fini.
Ça n'est pas fini.
Par une coïncidence bizarre, c'est au même médecin légiste, le célèbre professeur Toineau, que le parquet va confier l'autopsie du petit garçon. Ce professeur Toineau, qui par ses affirmations a déjà sauvé la tête de Jeanne Weber il y a 2 ans. Que va-t-il faire cette fois-ci? Un nouvel exploit? Allant à l'encontre de ses collègues de Châteauroux qui parlent d'étranglement, il conclut, avec ses assistants, un décès par typhoïde ambulatoire. La bagarre d'experts est déclarée. Tant et si bien que le malheureux juge d'instruction, qui ne sait plus à quel enfer se vouer, nomme une troisième commission pour départager les deux premières.
Oh, la fâcheuse idée!
La bagarre dégénère en bataille rangée, et comme le professeur Toineau crie plus fort que tous les autres, Jeanne retrouve les assises, et les assises la remettent dehors. C'est devenu une habitude.
Ah, bien entendu, après ce deuxième scandale, il se crée d'un côté les partisans de Jeanne Weber et de l'autre les tenants de l'ogresse de la goutte d'or.
Jouant les persécutés, Jeanne se réfugie dans un asile de province dirigé par l'un de ses partisans qui lui confie en toute sécurité l'infirmerie des enfants abandonnés.
15 jours après son arrivée, on la surprend serrant d'un peu trop près le cou d'un miséreux d'une dizaine d'années que la fièvre avait amené à l'infirmerie.
Le directeur, partisan, ravale son opinion et, désireux d'éviter le scandale, la jette à la rue sans rien dire à personne. Et Jeanne ne sait plus où aller. Sans argent, de plus en plus hagarde, après une tentative de suicide manquée, elle regagne Paris et va se jeter dans le bureau du chef de la sûreté. « Arrêtez-moi ! Mais arrêtez-moi, je suis une criminelle ! C'est vrai ! J'ai étranglé les petites filles Weber !»«
Oh, elle ne risque rien d'avouer !»
La chose étant jugée. Mais un mois de prison ou deux ferait un refuge agréable au point où elle en est. On y a au moins le gîte et le couvert. Alors le directeur de la sûreté tente sa chance.
Et le petit garçon de Châteauroux?
Ah lui, non. Non, non, seulement les petites. Puis, pressée de questions, Jeanne tout à coup se rétracte. Elle avoue qu'elle voulait simplement qu'on la mette en prison.
Et alors? Eh bien alors, on la rejette à la rue.
Ah, décidément, la justice ne voulait pas d'elle. Alors Jeanne repart sur les routes, s'acoquine avec un vagabond et atterrit dans un estaminet sordide où le couple loue une chambre. C'est là qu'enfin, elle commettra son dernier crime. Sa 5e victime, officiellement ne parlons pas de ses propres enfants. C'est là qu'enfin, elle fut surprise en flagrant délit par la patronne de l'estaminet dont elle venait d'étrangler le fils avec son mouchoir. Le célèbre professeur Toineau, ridiculisé, ne fit pas de commentaire, et Jeanne Weber, soumise à l'examen de 2 aliénistes, fut enfin considérée comme folle, folle alliée. Elle mourut peu de temps après, dans un asile, où il n'y avait fort heureusement que des fous et des vieillards à portée de ses mains.
Vous venez d'écouter Les Récits Extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.